Bonjour, en ce 9 novembre, il sera question durant toute l'ère d'une bienheureuse que j'aime beaucoup, mais que beaucoup de vous connaissez, je crois vous la connaissez, c'est Élisabeth de la Trinité, une jeune carmélite qui est décédée en 1906 à Dijon, au Carmel de Dijon, une carmélite. Un peu, ça fait penser un peu à Thérèse d'Enfant Jésus dans un sens. Mais un peu comme Thérèse d'Enfant Jésus, d'ailleurs, elle avait un caractère assez vif, enthousiaste, qui s'est manifesté assez longtemps dans sa vie. C'est sa mère qui lui a aidé à se contrôler. Et elle s'est faite carmélite avec une puissance, un courage, une audace qui l'a menée au plus haut sommet de la spiritualité chrétienne, la grande spiritualité trinitaire, comme l'indique son nom, Élisabeth de la Trinité, c'est-à-dire qu'elle vivait avec Dieu en elle, la Trinité présente, Père, Fils et Esprit. Elle a été vraiment phénoménale. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai appris à la connaître très jeune. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'ai appris à la connaître grâce à la meilleure amie de ma mère, qui s'appelait Madame Berthe Beaulieu, qui m'avait donné ce livre magnifique qui s'appelle « La doctrine spirituelle de Sœur Élisabeth de la Trinité » par le père Philippon, un dominicain, avec une préface du père Garrigou Lagrange, éminent dominicain dont on parlait beaucoup à l'époque, car le livre est paru dans les années 30, c'est pas d'aujourd'hui. Le livre était publié chez Desclée de Brouwer et chez Grange et Frères à Montréal, et était paru en 1938, avec un équilibre de 1937. Donc, on en parle depuis longtemps de cette merveilleuse religieuse. Cette dame, qui était la meilleure amie de ma mère, je l'appelais ma tante, elle m'avait donné ce livre quelque temps avant mon entrée au monastère de Saint-Benoît-du-Lac, en septembre 1944. Son père, à cette tante Berthe, qui n'était qu'une amie de ma mère, était chambellan du pape, d'ailleurs. On est surpris d'apprendre que des Québécois, c'était une dame Beaulieu, mais son mari, c'est son nom de fille, je l'ai oublié malheureusement, et son père, donc, était chambellan du pape. Élisabeth de la Trinité est née le 18 juillet, en plein été, 1880. Elle a été baptisée tout de suite, le 22, et elle est née dans le Cher. Sa famille, l'année suivante, s'est installée en Côte d'Or, à Auxonne, et encore l'année suivante, en 82, s'installe définitivement à Dijon. Un an après leur arrivée à Dijon, donc elle avait 3 ans, on lui a donné une petite sœur qui s'appelait Marguerite, qui se mariera. En 87, à 7 ans, son père meurt. Sa mère, Madame Cathez, C-A-T-E-Z, et ses deux filles, donc, Élisabeth et Marguerite, s'installent à proximité du Carmel de Dijon. À l'âge de 8 ans, Élisabeth a confié sa vocation religieuse à un prêtre, l'abbé Angle. Et en octobre, pourtant, elle est inscrite au Conservatoire de musique de Dijon. Elle sera une pianiste extraordinaire. En 91, à 11 ans donc, presque 11 ans, elle fait sa première communion. Et elle est confirmée finalement. En 93, déjà, à 13 ans et quelques jours, elle remporte le premier prix de piano au Conservatoire de Dijon. On avait rarement vu une jeune pianiste de cet âge remporter le premier prix. L'année suivante, après la communion, elle fait un vœu privé de virginité perpétuelle. Elle éprouve dans son cœur un désir très fort d'entrer au Carmel, en dépit de son immense talent. D'ailleurs, en juillet 94, quelque temps après ce vœu privé, elle se voit injustement privée justement du prix d'excellence du conservatoire. C'est une aventure qui l'éprouve, qui la creuse. Et elle sera toujours consciente qu'au cru de la souffrance peut naître des lumières fantastiques. En 96, elle fait une première visite à Lourdes. C'est en octobre. Mais elle prend souvent des vacances chaque année, soit dans les Vosges, dans le Jura, etc., dans le Midi. Elle fait des voyages jusqu'à Annecy, à Genève, etc. Elle voyage beaucoup avant d'entrer au Carmel. À la veille de ses 19 ans, elle reçoit de sa mère la permission d'entrer au Carmel quand elle aura 21 ans. En 1899, le 20 juin, elle fait sa première visite au parloir du Carmel de Dijon, qui était tout près de chez elle, puisqu'elle a reçu le consentement de sa mère. Et en 1900, elle rencontre le père Vallée, qui la marquera énormément. J'y reviendrai souvent au père Vallée. Quel homme spirituel, un homme qui a su la marquer profondément, un vrai prêtre de Dieu, un prêtre d'oraison, de prière, d'intériorité. Et en 1901, donc, elle a 21 ans depuis à peine, oh mon Dieu, 2 semaines. Elle entre au Carmel le 2 août. En 1902, le 15 octobre, donc à peine un an après son entrée au Carmel, sa sœur Marguerite épouse Georges Chevignard. Et finalement, l'année suivante, en 1903, mais elle fait sa profession et prend le voile. Et en 1904, à 24 ans, au terme d'une retraite communautaire, Élisabeth rédige l'une des plus belles prières de tous les temps. Elle est toute jeune, 24 ans. Cette prière, c'est « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». C'est vraiment l'une des plus belles prières qui soient. En tous les cas, c'est certainement l'une des plus belles prières du XXe siècle. En 1905, elle n'a même pas 25 ans, ce sont les premiers signes de maladie. Dans ces carmels qui n'étaient pas chauffés souvent, il faisait très froid. Vous savez qu'il fait très froid en France, même en été parfois. J'ai déjà gelé de façon épouvantable plusieurs fois au mois de juillet. Je me souviens d'être allé près de Chartres, à Champs-sur-Ry, chez des amis. Et c'était terrible, on gelait au mois de juillet. Tellement il faisait froid, on ne savait plus quoi faire. Une autre fois, j'étais en retraite chez des Carmes à Avon, près du château de Fontainebleau. Ce n'est quand même pas tout à fait dans le nord, c'est dans le centre de la France. Mais il faisait si froid que j'arrivais peine à dormir et que le matin, très tôt, déjà réveillé par le froid, vers 6h ou 5h30, je m'enfuyais du couvent pour me rendre à un endroit où les chauffeurs des gros camions s'arrêtaient dans un petit restaurant qui ouvrait très tôt. Et je prenais 2 bons cafés très chauds, parce que j'avais l'impression d'avoir les os gelés au mois de juillet. Alors imaginez ces pauvres sœurs, jeunes, souvent à la santé fragile, épuisées par ce genre de vie exigeante. Ils attrapaient la tuberculose et mouraient. Combien de sœurs sont mortes très jeunes? On voit même, j'ai des livres chez moi qui sont très intéressants, publiés vers 1840, où on voit les jeunes filles dans les couvents, comme le couvent des Oiseaux à Paris, qui meurent comme de petites saintes à 12, 13, 14 ans. C'est de très beaux documents, mais elles meurent très jeunes. Et alors, en 1906, après un an de signes de maladie, elle entre à l'infirmerie. Et puis, avant la fin du mois de mars, 1906, l'année de sa mort, et le 8 avril, au temps de Pâques, elle reçoit l'extrême-onction, une amélioration. Puis dans la première moitié d'août, elle est morte le 9 novembre, dans la première moitié du mois d'août, elle écrit un texte sublime, « Le ciel dans la foi ». et à la fin d'où elle rédige la dernière retraite. C'est sublime, c'est tellement beau sur la présence de Dieu que c'est rare qu'on puisse lire de la main d'une enfant de cet âge, une enfant quoi, pour moi, qui approche de mes 70 ans, je trouve ça bien jeune, n'est-ce pas? 26 ans. La dernière retraite. Et alors, le 30 octobre, elle s'allie définitivement, et le 9 novembre, la mort l'emporte. En 1984, Élisabeth de la Trinité est déclarée bienheureuse par le pape Jean-Paul II. Ce petit résumé de sa vie vous donne une idée de ce que nous allons aborder dans quelques instants. Cette femme a la nature ardente dès sa prime jeunesse. Elle était même prompte à la colère, d'une extrême sensibilité, musicienne. Elle a appris de sa mère à se vaincre par amour. La douleur de la perte de son père, quand elle avait 7 ans, était immense. Sa première confession a eu une influence décisive, chose étonnante, sur sa vie. Vous savez qu'un enfant qui fait une confession bien préparée dans le sens de la miséricorde de Dieu, de son amour, de l'aide que Dieu nous accorde, ça peut changer un enfant. Elle a toujours considéré, d'ailleurs, cette confession comme le point de départ de sa conversion profonde. Et désormais, elle a mis toute son énergie à lutter contre son défaut dominant, sans que cette lutte au plus intime de son être ait altéré son entrain, sa gaieté. Il faut dire qu'elle était la fille et petite fille d'officier, ça l'a marquée, hein? Et elle a toujours aimé le mouvement puis l'éclat des fêtes militaires. D'ailleurs, son milieu social va l'obliger à une espèce de vie mondaine. Elle n'a jamais craint les fêtes, même les réceptions, mais elle s'y ennuyait quand même. Elle était élégante, joyeuse. Elle ne se dissipait pas de façon stupide. Sa présence, en tous les cas, n'ennuyait pas les autres. Mais pourtant, sa pensée, déjà, toute jeune, était centrée sur Jésus-Christ. Il fallait d'ailleurs entendre avec quel accent elle a désigné Jésus quand elle disait « lui ». Elle avait une façon, paraît-il, de dire « lui », qui était pleine d'amour et qui marquait toute sa conversation. D'ailleurs, dès qu'elle se mettait en prière, même jeune, son profond recueillement surprenait tous ses intimes. Elle avait une foi très éclairée, malgré son défaut de colère et d'impatience au début. En somme, le fond de son être révélait un tempérament d'artiste. Elle avait, devant les beautés de la nature, des cris d'enchantement. Elle avait un talent musical d'ailleurs exceptionnel. Comme je vous ai dit, c'était l'une des plus brillantes élèves du conservatoire de Dijon. D'ailleurs, quand on lit les journaux de l'époque, ils exaltent son talent, un peu comme on a exalté celui d'André Mathieu ici, qui malheureusement a mal tourné, comme on a pu le voir dans cette belle émission à la télévision il y a quelques semaines. Élisabeth Cathèse, ou Élisabeth de la Trinité, a gardé toute sa vie un sens du rythme et de l'harmonie. Et comme on le verra plus tard, son élévation à la Trinité, ses pages sur la vocation suprême qu'il s'est emparée d'elle comme louange de gloire, c'est l'expression d'une âme qui chante Dieu. Est entrée au Carmel le 2 août 1901 à Dijon. Elle a franchi la porte de clôture, comme on dit, du Carmel, sans effort. Elle est entrée dans cette vie de solitude et de silence comme si elle était chez elle. Pour son âme, ça a été une béatitude profonde. Ça me rappelle des souvenirs. C'est quelque chose d'étonnant quand on entre au cloître, hein, le bonheur qui s'empare de notre cœur. Tout l'enchantait d'ailleurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, dans un monastère. Hein? Les moindres travaux nous enchantent, aussi bien que la prière et l'oraison. L'office, les promenades, même les repas, la lecture à table, tout. Et Élisabeth Cathez, devenue Élisabeth de la Trinité, eh bien, elle trouvait Dieu partout. Avant d'entrer, on lui a posé un questionnaire. Je vous le lis, c'est tellement intéressant, ses réponses. Quel est, selon vous, l'idéal de la sainteté? Et elle répond, vivre d'amour. Elle est toute jeune, 21 ans. Hein? Quel est le moyen le plus rapide pour y parvenir? Et elle répond, se faire toute petite, se livrer sans retour. Quel est le saint que vous aimez le mieux? Le disciple bien-aimé, Saint Jean, qui reposa sur le cœur de son maître. Quel point de la règle préférez-vous? Le silence. Quel est le trait dominant de votre caractère? La sensibilité. Votre vertu de prédilection? La pureté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le défaut qui vous inspire le plus d'aversion? L'égoïsme en général. Ce qui frappe le plus dans la vie d'Élisabeth de la Trinité, c'est cette merveilleuse unité. Elle a été la sainte de l'habitation de la Trinité dans l'âme. Et les deux phases si différentes de sa vie spirituelle ne brisent absolument pas cette unité, c'est constant chez elle. C'est au-dedans d'elle-même, on peut dire dans le ciel de son âme. Vous savez que le ciel est dans notre âme, hein? Donc dans le ciel de son âme qu'elle a voulu réaliser sa vocation suprême, qui arrive au dernier temps de sa vie, d'être une louange de gloire. Et c'est notre vocation à nous tous. Dès notre baptême, nous sommes marqués pour devenir louange de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Des êtres qui unissent tout l'univers dans leur cœur, et qui par leur bouche, par leur âme, rendent gloire à Dieu et le remercient, lui disent « Amour, amour, amour ». C'est ça notre vocation, nous tous, et elle l'a saisie jusqu'au tréfonds de son être. Et dans les premières touches que Dieu a accomplies dans son âme, eh bien, Élisabeth Cathez s'est sentie attirée vers cette voie de silence et de recueillement qui sera la caractéristique de sa vie. Et la rencontre providentielle de ce père Vallée dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'est venue confirmer tout ce qu'il y avait dans son cœur. Dans un entretien de près de 2 heures, ce religieux remarquable l'a éclairé sur la vérité fondamentale du christianisme, ce qui est révélé d'ailleurs par Saint Paul. Saint Paul, il le dit, puis on l'entend. Est-ce qu'on l'écoute quand c'est lu dans nos églises? Il dit, « Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous et que vous êtes le temple de l'Esprit-Saint? » Comment se fait-il que des jeunes catholiques passent dans des sectes abracadabrantes qui ne viennent de rien et qui découvrent que Dieu les habite? Comment se fait-il qu'on ne leur a pas enseigné quand ils avaient 6 ans, 7 ans, 10 ans? Dieu est dans notre cœur. Combien de fois j'ai enseigné ça à mon fils? Il aimait ça. Ça le touchait profondément. Et à la lumière de la théologie de la grâce, le père Vallée a exposé à Élisabeth comment les trois personnes divines demeurent en nous plus présentes, plus agissantes que nous-mêmes, et comment le trop grand amour de Dieu explique, si on peut dire, cette espèce de condescendance divine qui va jusqu'au don du Christ, et même au don de toute la Trinité qui se donne à nous. Élisabeth Cathez est sortie de cet entretien ravie, un entretien de 2 heures avec le père Vallée, et elle a écrit plus tard, « Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. » En somme, cette découverte de la présence de la Trinité en elle, au plus intime de son âme, orientera définitivement sa vie. « Dieu en moi, moi en lui. » Que ce soit notre devise, a-t-elle écrit à une amie qui rêvait comme elle d'entrer au Carmel, que c'est bon cette présence de Dieu au-dedans de nous. Dans ce sanctuaire intime de nos âmes, là nous le trouvons toujours, quoique nous ne sentions plus sa présence. Mais il est là tout de même, plus près peut-être encore, comme vous le dites. C'est là que j'aime le chercher. D'une belle lettre. Et après les premières heures d'illumination éblouissante, le sentiment de cette présence est disparu, puis au lieu de fléchir et de se lamenter, Mais Elisabeth s'est réfugiée dans une vie de foi, encore plus profonde. C'est pas nécessaire de ressentir que Dieu nous habite. Il suffit de le savoir et de le croire. Elle écrit d'ailleurs, moi aussi, « Ce n'est plus un voile, mais un mur épais qui me le cache. C'est dur après l'avoir senti si près, mais je suis prête à demeurer en cet état d'âme. Allons à lui par la foi pure. » Elle avance donc en pleine sécurité sur cette route magnifique de la présence de Dieu. Et son âme commence à y trouver en toutes circonstances un appui. Elle dit « Je suis privée de l'Église, privée de la communion. Mais le bon Dieu n'a pas besoin de sacrements pour venir à moi. Je lis tout autant. C'est si bon cette présence de Dieu. C'est là, tout au fond, dans le ciel de mon âme, que j'aime le trouver, puisqu'il ne me quitte jamais. » Pour dire qu'elle était malade et ne pouvait aller à l'église. Elle avait soif. Mais elle savait que Dieu était avec elle. « Vous ai-je jamais dit mon nom au Carmel, Marie-Élisabeth de la Trinité. Il me semble que ce nom indique une vocation particulière. N'est-ce pas qu'il est beau? J'aime tant ce mystère de la Sainte Trinité. C'est un abîme dans lequel je me perds. » Je vous ai dit que son nom l'enchantait, et sa vie est tout envahie par la Trinité, Élisabeth de la Trinité. Et à l'occasion de ses entretiens avec ses sœurs, aussi bien que dans sa correspondance, on peut tout lire ça, c'est publié. Elle ne parle que de la béatifiante présence du Dieu Trinité. Elle écrit, « Il est vivant en nos âmes. C'est lui-même qui l'a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » Or, Élisabeth continue en disant, « Puisqu'il est là, tenons-lui compagnie, comme l'ami à celui qu'il aime. Cette union divine et tout intime est comme l'essence de notre vie au Carmel. » Alors, l'heure est venue où la plénitude débordante, là, dans son cœur, va se répandre, dans une prière sublime sur l'Église entière. Depuis longtemps, sœur Élisabeth gardait précieusement copiée de sa main la magnifique élévation à la Trinité qui termine le fameux dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Ça aussi, on peut lire ça, on peut acheter ça. Moi, j'ai ça dans ma bibliothèque depuis mon adolescence et j'ai été bouleversé aussi par ça. Voici le texte de Catherine de Sienne, « Ô Trinité éternelle, vous êtes une mère profonde, où plus je cherche, plus je trouve. » Et plus je trouve, plus je cherche encore. Qu'est-ce que c'est beau. Catherine de Sienne, qui a vécu il y a très longtemps, vous savez, c'était cette femme qui, avant l'arrivée du protestantisme, protestait déjà, elle, à Sienne, contre la décadence de l'Église et qui disait sa façon de penser même au pape. Elle est sainte, elle est docteur de l'Église. Vous savez, notre Église est assez étonnante, qui canonise des gens qui ont semblé être des audacieux, des révolutionnaires. Notre Église n'est pas ce que beaucoup pensent. Elle est belle, cette Église. Catherine de Sienne disait aussi, en rassasiant l'âme, vous ne la rassasiez jamais. Elle est toujours avide, toujours affamée de vous, ô Trinité éternelle, parce qu'elle désire voir votre lumière dans votre lumière. Comme le cerf altéré soupire après l'eau des fontaines, de même mon âme désire sortir de son obscure prison pour vous contempler tel que vous êtes dans la plénitude de votre être. Votre visage sera-t-il encore longtemps caché à mes regards? Mais ça se continue comme ça, c'est tellement beau. On n'épuise pas les textes de ces grandes femmes qui ont marqué l'Église à travers les siècles. Elle disait d'ailleurs de cette prière de Catherine de Sienne, Élisabeth de la Trinité disait, « C'est la plus belle de toutes les prières que je connais, c'est celle que je préfère. » Je suis bien son avis. Elle sentait que ça ne traduisait pas adéquatement tout le mouvement de son âme. Elle rêvait de composer à son tour une prière. Et ça a été écrit le 21 novembre 1904. Elle avait 24 ans. Notons-nous tous en présence de Dieu et prions ensemble, pourquoi pas. Je vous lis donc cette prière admirable. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Aidez-moi à m'oublier entièrement, pour m'établir en vous immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais vous couvrir de gloire. Continue, ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds. Je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Je vous ai déjà dit il y a bien des mois que ma prière le matin, c'était de me jeter par terre dès mon réveil pour dire, ô mon Dieu, je suis en toi, tu es en moi. Ne permets pas que j'oublie ta douce présence. C'est court, ça dit tout. On peut le dire dans un métro. On peut le dire en faisant ses emplettes. Et ça résume tout. En somme, il a fallu toute une vie de silence et de recueillement et d'amour pour formuler la prière qu'Élisabeth de la Trinité a écrite. Et c'est une courte vie. Le danger de la carmélite, comme de toute âme contemplative, auquel n'avait pas échappé jusque-là Élisabeth de la Trinité, c'est le repliement sur soi. Faut faire très attention. On tombe dans des erreurs qui ont malheureusement marqué l'Église à certains moments. Pas l'Église en tant que telle, mais des membres de l'Église étaient condamnés par l'Église. Le quiétisme et toutes ces doctrines magnifiques, mais très dangereuses. Et finalement qui détruisent l'âme dans ce qu'elle a de plus beau, c'est l'amour du prochain. Élisabeth de la Trinité suppliait Dieu d'ailleurs de lui accorder la libération suprême. Elle disait, aidez-moi à m'oublier entièrement. C'est très difficile. S'oublier entièrement. Car le total oubli de soi ne peut fleurir, il me semble, qu'au sommet d'un pur amour. C'est là qu'on peut s'oublier totalement. C'est Saint Jean de la Croix qui écrivait, « Ici n'habite plus que le zèle et l'honneur de Dieu. » Vous savez, c'est le dessin, j'en ai encadré beaucoup de ça pour les distribuer. C'est ce dessin de Saint Jean de la Croix où il dessine le mont de la perfection. Et au sommet du mont, c'est écrit ça, « Ici n'habite plus que le zèle et l'honneur de Dieu. » Mais ce sera en elle l'œuvre des deux dernières années de sa vie, le 21 novembre 1904, en la belle fête de la présentation de Notre-Dame. Sœur Élisabeth de la Trinité semble avoir reçu la grâce définitive d'oubli de soi. Elle écrivait à une amie, « Cela vous paraît difficile de vous oublier. Si vous saviez comme cela est simple, je vais vous donner mon secret. Pensez à ce Dieu qui habite en vous, dont vous êtes le temple. » C'est Saint Paul qui parle ainsi, nous pouvons le croire. Or, petit à petit, l'âme s'habitue à vivre en sa douce compagnie. Elle comprend qu'elle porte en elle un petit ciel où le Dieu d'amour a fixé son séjour. Alors, c'est comme une atmosphère divine en laquelle elle respire. Il n'y a plus que son corps sur la terre. Son âme habite en celui qui est l'immuable. Elle a écrit des lettres magnifiques, vous savez. Je vous l'aurais dit, c'est publié tout ça. Publié aux éditions du Cerf depuis déjà 1980. C'est le deuxième tome des œuvres complètes en 3 tomes que j'ai chez moi et j'ai parcouru ça toujours avec grand joie. Il y a une introduction générale au début, puis il y a les traités spirituels et ensuite dans le 2e tome les lettres. Vous savez, c'est long, les lettres, 522 pages. Et j'étais jeune, mais elle avait beaucoup écrit. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages à la fin qui sont des tas, des index analytiques et toutes sortes de choses pour se retrouver. Et dans le tome 3, mais le journal, puis les notes intimes, puis des lettres de jeunesse, puis des poésies aussi. C'est considérable. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oh, en parlant des livres, je vous recommande, au cas où je n'aurai pas le temps à la fin, je vous recommande aussi simplement, si vous voulez quelque chose de plus simple, aux éditions Foi Vivante, dans la collection Foi Vivante, selon les pensées, un premier tome tout petit, vous êtes la maison de Dieu. Et le 2e tome des pensées, qui n'est pas gros non plus, c'est Pour son amour, j'ai tout perdu. Je vous recommande aussi, publié récemment chez Desclés de Brouwer, Petite vie de Élisabeth de la Trinité par Bernard Sesé, ou Sesé, avec une préface d'un carme, le père Dominique Poirot. Cet auteur, Bernard Sesé, a déjà écrit une petite vie de Saint-Jean de la Croix, petite vie de Thérèse d'Avila, de Saint-Augustin, et il a fait les traductions de Jean de la Croix, du fameux frère Luis de León, poète extraordinaire, espagnol, fantastique, qui a vécu il y a des siècles, de Calderón aussi, de Jiménez, des sonnets spirituels. Ce sont des textes. Vous savez, les gens qui se disent, qu'est-ce que je pourrais lire? Mais mon Dieu, il y a des milliers de livres, j'en ai des milliers chez moi, je n'aurai jamais assez de temps pour tout lire ces beaux livres. Au cours de l'été 1905, une sœur a signalé à Élisabeth de la Trinité dans Saint-Paul l'aspect le plus élevé du plan de Dieu. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2000 ans que ça existe, ces beaux textes-là. Il nous a choisis afin que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Ça dit tout. C'est Saint-Paul qui a écrit ça. Il nous a choisis. Il ne nous choisit pas pour rien, c'est parce qu'il nous aime. Hein? Parce qu'il nous aime. Il nous a choisis afin que nous soyons saints et immaculés. C'est pas triste d'être saint et immaculé. Croyez-moi, tous les saints que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance, à cause de mon travail, d'en rencontrer. Ce sont les êtres les plus heureux. Il nous a choisis afin que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Que c'est beau. Hein? Elle note la différence, la référence plutôt quand la sœur lui donne ça, au premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et son âme de contemplative s'exclame, ravie, In laudem glory, à la louange de sa gloire. C'est dans le texte de Saint Paul. Alors elle souhaite de devenir une louange de gloire. Ces deux mots de Saint Paul resplendissent comme un nom de grâce pour elle. Elle sera la louange de gloire. Elle veut désormais laudem glory. Elle dit, je vais vous faire une confidence toute intime. Mon rêve est d'être la louange de sa gloire. C'est dans Saint Paul que j'ai lu cela, dit-elle, et mon époux m'a fait entendre que c'était là ma vocation dès l'exil, c'est-à-dire dès la mort, en attendant d'aller chanter sa vie au Carmel, plutôt l'exil, en attendant d'aller chanter le Sanctus éternel en la cité des saints. Alors, sœur Élisabeth de la Trinité va d'ailleurs signer ses derniers écrits en ajoutant Laudem Gloriae. Louange de gloire. Dieu intervient lui-même d'une manière foudroyante. Il emporte l'âme d'Élisabeth de la Trinité avec une rapidité extraordinaire vers les plus hauts sommets de ce qu'on appelle en termes mystiques l'union transformante. Et les témoins dans son Carmel, les sœurs qui étaient là, disaient on ne pouvait plus la suivre, nous ne pouvions plus la suivre. C'était pour eux comme une espèce de mystère. D'ailleurs, dans la doctrine spirituelle, il y a une page Dans la doctrine spirituelle d'Élisabeth de la Trinité, il y a une page qui est la clé de tout. Elle dit « Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire. » C'est Saint Paul qui parle ainsi, Saint Paul instruit par Dieu lui-même. Elle est consciente que Saint Paul est inspiré. Et elle ajoute « Comment réaliser ce grand rêve du cœur de notre Dieu, ce vouloir immuable sur nos âmes ?» Comment, en un mot, répondre à notre vocation et devenir parfaite louange de gloire de la très sainte Trinité? Au ciel, chaque âme est une louange de gloire au Père, au Verbe, à l'Esprit Saint, parce que chaque âme est fixée dans le pur amour et ne vit plus de sa vie propre, mais de la vie de Dieu. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, par-dessus tous ses dons. Oh, je pourrais continuer à en lire. C'est tellement grandiose ce qu'elle a écrit, cette petite femme, petite jeune fille. C'est phénoménal. Et comme dans la vie, flamme d'amour de Saint Jean de la Croix, on retrouve dans ces pages toute la quintessence de sa spiritualité, tout ce qui compte dans sa spiritualité, à un très haut degré mystique. Hein? L'expression suprême d'une âme contemplative, qui savoure Dieu, savourez Dieu. Ça peut vous sembler exagéré tout ça, mais croyez-moi, c'est vrai. Ces gens-là n'écrivent pas n'importe quoi. Pensez au docteur Karl Stern, un juif qui habitait Montréal, qui était connu mondialement, un grand psychanalyste, qui voulant prouver que Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, la plus grande mystique de l'histoire de l'Église, était une hystérique et une folle, a lu son autobiographie, qu'on peut se procurer dans les librairies, particulièrement dans les œuvres complètes de Thérèse d'Avila. Et alors, après l'avoir étudié, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait baptiser ici, là où je vais souvent à la messe, chez les franciscains du boulevard René Lévesque. Tout simplement. Le docteur Karl Stern a écrit d'ailleurs le récit de sa conversion, Pillar of Fire en anglais, qui a fait le tour du monde. Les toutes dernières pensées d'Élisabeth de la Trinité reviennent au double aspect de sa vocation. Elle écrit à une amie, « Je vous laisse ma foi en la présence de Dieu, du Dieu tout amour habitant en nos âmes. Je vous le confie. » C'est cette intimité avec lui au-dedans qui a été le beau soleil irradiant ma vie, en faisant un ciel anticipé. Et elle écrit dans un testament à sa sœur, « Je te laisse ma dévotion aux trois, les trois personnes de la Trinité. Je te laisse ma dévotion aux trois, avec un T majuscule évidemment. » Et elle dit à sa sœur mariée, « Vis au-dedans avec eux, dans le ciel de ton âme. » Le Père te couvrira de son ombre. Le Verbe imprimera en ton âme l'image de sa propre beauté. L'Esprit Saint te transformera en une lyre mystique qui, dans le silence, sous sa touche divine, produira un magnifique cantique à l'amour. Alors, tu seras la louange de sa gloire, ce que j'avais rêvé d'être sur la terre. C'est toi, Catherine, qui me remplacera. Je serai Laudem Gloriae devant le trône de l'agneau, et toi Laudem Gloriae au centre de ton âme. Au ciel ou sur la terre, vivons dans l'amour pour purifier l'amour. » Alors le 31 octobre, la grâce des derniers sacrements lui est renouvelée. C'est en 1906. L'Église chantait les premières vêpes de la Toussaint. Et notre sainte, qui est malade, je l'appelle sainte, elle est bienheureuse, notre sainte qui est malade, ne pouvant plus écrire, a dicté un dernier message. Elle a dicté, « Voici, je crois, le grand jour désiré. J'ai l'espérance d'être ce soir, dans cette grande multitude que Saint Jean vit devant le trône de l'agneau. » C'est dans l'Apocalypse. « Le servant jour et nuit dans son temple. » Et elle ajoute, « Je vous donne rendez-vous. » Dans la vision à laquelle je vais me perdre pour toujours. et toutes les cloches de la ville ont sonné. « Oh, ma mère !» s'écria-t-elle, « ces cloches me dilatent, elles sonnent pour le départ de l'Audem Glorier, pour son départ à elle. » Elles ont des petites prétentions, ces jeunes sœurs qui meurent en odeur de sainteté. C'est sympathique. Ça ne blesse pas du tout, je crois. Ça n'atteint pas, en tous les cas, leur humilité. Elles sonnent pour le départ de l'Audem Glorier. Elles vont me faire mourir de joie, ces cloches. Partons. Et ses bras se tendaient vers le ciel. Et le jour de la Toussaint, donc le 1er novembre, vers 10 heures du matin, l'heure suprême parut arriver. Et la communauté s'est réunie à l'infirmerie pour réciter les prières des agonisants. Et sœur Élisabeth de la Trinité sortit son état d'affaissement, s'assura de la présence de toutes les sœurs et elle a demandé pardon. Puis sur un désir exprimé, elle a laissé échapper les paroles suivantes, « Tout passe ». J'aime bien ces deux mots-là, « tout passe ». C'est tellement court la vie, hein? Rien n'a d'importance que Dieu, au fond. Tu fais jaillir en nous de l'amour, c'est tout, le reste. Tous les tableaux, les objets d'art, les toilettes et les choses, ça ne veut rien dire, tout passe. Non, c'est beau, une belle œuvre d'art, je ne suis pas contre. Au soir de la vie, dit Élisabeth de la Trinité, au soir de la vie, l'amour seul demeure. Il faut tout faire par amour. Alors ont commencé 9 jours d'agonie douloureuse, étendu sur son lit, comme sur un autel, on pourrait dire, les yeux clos. Toute sa vie, sa brève vie ramassée au fond de son âme, Élisabeth de la Trinité priait. Quand les sœurs essayaient de la consoler, de ne plus pouvoir recevoir l'hostie, elle disait, « Je le trouve sur la croix, c'est là qu'il me donne la vie. » Et son visage était ravagé, méconnaissable. Son visage revêtait parfois d'ailleurs, d'une façon très saisissante, les traits douloureux de la Sainte Face. On eût dit un Christ en croix. 3 semaines plus tôt, elle avait avoué à sa prière, « Si mon maître me donnait le choix entre une extase et la mort dans l'abandon du calvaire, je choisirais cette dernière pour lui ressembler, car si la Trinité est le terme, le Christ demeure la voie. » Et son maître l'avait pleinement exaucé, c'était l'accablement du calvaire, au-dedans comme au-dehors. Après une crise violente, on l'avait entendu s'écrier, « Ô amour, amour, épuise toute ma substance pour ta gloire, qu'elle se distille goutte à goutte pour ton Église. » L'avant-veille de sa mort, le médecin lui a avoué l'extrême faiblesse de son pouls. Elle est entrée en jubilation. Elle a trouvé la force de dire, « Dans 2 jours, je serai au sein de mes 3. » C'est la Vierge, cet être tout lumineux qui me prendra par la main pour me conduire au ciel. Alors le docteur, qui était un incroyant, s'est étonné d'une telle joie. Sœur Élisabeth de la Trinité lui a parlé de l'adoption divine, du grand mystère de l'amour penché sur nous. Et ses derniers élans se sont achevés de l'épuiser. On a d'ailleurs pu l'entendre murmurer encore d'une voix qui chantait un peu, « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie. » Ce furent ses derniers mots intelligibles. Le vendredi 9 novembre, à 5h15, sœur Élisabeth rendait son âme à Dieu. Quelques jours avant de mourir, sœur Élisabeth de la Trinité avait prophétiquement entrevu le sens de son influence posthume. Elle avait dit, « Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes, en les aidant à sortir d'elles-mêmes, pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles et de les transformer en lui. » D'ailleurs, aujourd'hui, son rayonnement est devenu mondial. Elle a révélé à des centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers d'âmes, cette présence intime et agissante de la très sainte Trinité en chacun de nous. Ce dogme de l'habitation divine, dont ont vécu si intensément les premiers chrétiens, les premières générations de chrétiens, on dirait que on l'avait oublié. Une humble carmélite est venue, on dirait providentiellement, le rappeler au monde. Pourtant, moi, ça m'a été enseigné tout jeune. Dieu, en effet, habite en nous par sa présence substantielle, plus intime à nous que nous-mêmes. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 28, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Qu'est-ce qu'une carmélite? Une carmélite, c'est une âme qui a regardé le crucifié, qui l'a vu s'offrant à son Père, et se recueillant sous cette grande vision de la charité du Christ, elle a compris la passion d'amour de son âme et elle a voulu se donner comme lui. C'est Élisabeth de la Trinité qui a écrit ça. Et sur la montagne du Carmel, dans le silence, dans la solitude, dans une oraison qui ne finit jamais, car elle se continue à travers tout, la carmélite vit déjà comme au ciel, de Dieu seul. De Dieu seul. Le même qui fera un jour sa béatitude et la rassasiera dans la gloire, se donne déjà à elle, la carmélite. Il ne la quitte jamais. Il demeure en son âme. Plus que cela, tous deux ne font qu'un. Aussi, la carmélite est-elle affamée de silence, afin d'écouter toujours, de pénétrer toujours plus en son être infini. Elle est identifiée avec celui qu'elle aime. Elle le trouve partout, à travers toutes choses, elle le voit rayonner. N'est-ce pas le ciel sur la terre? Et j'ajouterai à ce texte de Sœur Élisabeth de la Trinité, que nous sommes tous appelés d'ailleurs à vivre, comme dans un Carmel, dans le monde, en faisant ce que nous avons à faire, partout où nous sommes. C'est le même problème, la même vérité qui devrait nous habiter. Rien ne nous en empêche. Beaucoup de gens dans le laïcat, ou dans le clergé diocésain, ou chez les sœurs actives, vivent cela très intimement. Je vous rappelle que Sœur Élisabeth de la Trinité a été béatifiée le 25 novembre 1984. C'est aujourd'hui sa fête, en l'anniversaire de sa mort. Elle qui est morte le 9 novembre 1906, mais elle n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais.